Eh bien, merci à l'équipe de louange et bonjour à tous. Très heureux de vous revoir, vous retrouver ce matin. Bonjour à ceux qui nous écoutent aussi via la toile. Très heureux de vous avoir avec nous. Eh bien, je le disais cette semaine, une étude qui a été menée pendant plusieurs années par l'Université d'Harvard, une des universités les plus réputées dans le monde entier. Une étude qui a été menée pendant plusieurs années, et c'est quand même rare, 72 ans. Eh, c'est toute une étude, ça. Sur le secret, et ça c'était la question qu'on avait posée, on voulait à travers ces années, ces décennies, 72 ans, trouver le secret du bonheur. Alors l'université d'Harvard, une des universités les plus réputées dans le monde, avec des scientifiques très réputés, ont pris 268 personnes et ils les ont étudiées pendant plus de 72 ans avec plusieurs informations, du data et des éléments, et toutes sortes de questions et tout ça. Et ils les ont suivis afin de découvrir une fois pour tout c'est quoi le secret du bonheur. Alors, vous avez les grands scientifiques dans le monde qui se sont penchés sur cette question-là. Et après 72 ans, finalement, on est allé voir le directeur et on lui a demandé, « Bon, as-tu trouvé la réponse? C'est quoi le secret du bonheur? » Alors, voici sa réponse. Il dit, dans le fond, et on se serait attendu d'avoir une réponse assez complexe, bien détaillée, venant de scientifiques, absolument pas. La réponse est très simple. Il dit, écoutez, il dit, somme toute, la réponse est pas mal simple. Et sa conclusion est la suivante. Il dit, voici ce qu'on a découvert à travers 72 ans de recherche avec des centaines de personnes, avec tout le data, les informations, les questions qu'on a soumises. On arrive à la conclusion que la seule chose qui soit vraiment importante dans la vie, dit-il, c'est tes relations avec les autres. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans les derniers 20 ans, il y a des études en neurobiologie qui se sont arrêtées sur l'étude du cerveau. Et on est allé voir le chercheur Daniel Goleman qui résume ses recherches du cerveau. Et voici ce qu'il dit. Il dit, la révélation la plus fondamentale de la discipline de la neurobiologie est que nous sommes pré-câblés dans le cerveau pour connecter avec les autres. La façon, poursuit-il, que notre cerveau est bâti, la façon qu'il est monté, le rend sociable et attiré vers d'autres, d'autres connexions avec d'autres cerveaux, lorsqu'on entame des relations avec les autres. C'est vraiment intéressant lorsqu'on regarde toutes ces recherches à la lumière des Écritures saintes, parce que la Bible, depuis les premières pages de la Bible, en fait, déjà on voit que Dieu voulait avoir une relation avec nous. Il nous a créés pour avoir une relation. Il nous a créés des êtres relationnels. Et nous avons été créés à son image pour avoir une relation avec Dieu et aussi avec une relation avec les autres. Nous sommes des êtres relationnels. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que le péché est entré dans le monde et à cause du péché, il y a eu un bris, vraiment une séparation dans les relations. C'est lorsque la chute est arrivée que là, les relations ont commencé et se sont brisées. Premièrement, un gros mur s'est installé entre nous et Dieu. Donc, notre relation avec Dieu a été brisée. Nous sommes séparés d'avec Dieu. En plus, les relations les uns avec les autres ont été touchées, brisées. Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que qu'est-ce qu'on va voir à travers les Écritures saintes, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique ici sur terre. Il a été livré sur la croix. Il a pris sur ses épaules nos péchés afin de nous rétablir la relation avec Dieu et les uns avec les autres. Donc, lorsque Jésus est venu, il a pris le péché de nous tous sur ses épaules, lui-même a été séparé d'avec Dieu afin de nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est tout un miracle, c'est le miracle de la réconciliation, que nous avons été réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et c'est ce que les Écritures enseignent. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, voici ce qui arrive. Vous savez que les Juifs et les Grecs ne s'entendaient pas à l'époque du Nouveau Testament et ça représente finalement l'animosité qui existe les uns avec les autres. On parle de Juifs et de Grecs, mais dans le fond, ça nous représente tous. Et Jésus, voici ce qu'il est dit. Il dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. En effet, il est notre paix. Alors, grâce à Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu et en paix les uns avec les autres. Lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, ça c'est l'Église, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. En d'autres mots, maintenant, on peut entrer en communion avec Dieu grâce au sacrifice qui a été accompli sur la croix. Alors qu'avant, c'était impossible, il y avait un mur qui nous séparait. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire des concitoyens des saints. En d'autres mots, on est membre de cette famille, la famille de Dieu qui est l'Église, membre de la famille de Dieu. Et ça, c'est le miracle de la réconciliation. Et l'Église devrait être le reflet de ce miracle de la réconciliation. L'Église devrait être unie par le sang de Christ. Nous sommes unis, mais ça devrait paraître. Mais ce n'est pas toujours ce qui arrive, n'est-ce pas, parce que nous sommes des pécheurs. On reste pécheurs. L'apôtre a implanté plusieurs églises, comme vous le savez, dans le Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament. Et l'une des églises qu'il va implanter, c'est l'église de Corinthe. Et ce qu'on apprend depuis le début du premier chapitre de la lettre aux Corinthiens, comment cette église était déchirée, comment il y avait plusieurs divisions dans cette église. Et c'est particulièrement vrai dans le passage que nous allons lire ce matin. L'Église était vraiment déchirée. Et s'il y avait un moment qui aurait dû refléter le miracle de la réconciliation, c'était vraiment lorsque l'Église se réunissait autour d'un repas, puis prenait la Sainte Cène. La Sainte Cène, finalement, devait faire ressortir, démontrer l'unité maintenant qu'on a les uns avec les autres. Alors, c'était tout à fait le contraire dans le cas de l'Église de Corinthe. Donc, si vous voulez bien, on va aller tourner dans le passage pour lire ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Juste avant, on va juste se courber, si vous voulez bien, et prier. Seigneur, nous aimerions te prier ce matin et demander ton aide. Et particulièrement en ce qui concerne nos relations, d'abord avec toi et nos relations les uns avec les autres. Nous voulons te remercier pour le miracle de la réconciliation. Cette réconciliation que nous avons maintenant, cet accès que nous avons maintenant auprès de toi grâce à Jésus et son sacrifice sur la croix, la crucifixion et la résurrection. Merci Seigneur que maintenant nous avons été adoptés dans ta famille. Nous sommes ton enfant, nous qui sommes en Jésus. Nous te prions aussi que maintenant tu puisses faire une œuvre entre nous, que nos relations les uns avec les autres puissent être le reflet de ce miracle de la réconciliation. Oui, Seigneur, fais cette œuvre en nous, dans nos relations. Et parle à travers ce passage ce matin, ce passage inspiré par le Saint-Esprit. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. 1 Corinthiens 11, verset 17, et on va poursuivre la lecture jusqu'à la fin. D'accord? 1 Corinthiens 11, verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Et sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs même sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Alors, quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai vers vous. Ah, imaginez la situation. Regardez le verset 17. C'est quand même assez phénoménal. Pensez-y, là. C'est fou, là. Vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ah, imaginez, les gens venaient à l'église, puis quand ils sortaient à la fin du service, ils étaient pires que quand ils étaient rentrés. Ah, non, mais écoute, c'est pas fort, là. Pense-y, tu rentres à l'église, tu viens à l'église et tu étais mieux avant le service. Tu avais plus d'allure quand tu es rentré. Puis quand tu sors, bien, premièrement, les gars, ils sortaient tout croche, hein, ils étaient sous, t'es ivre. Ça allait vraiment pas bien. Ben, pas juste, peut-être pas juste les gars, hein, c'est pas, là, mais. Aïe, aïe, aïe. C'est l'idée d'être moins bon. Faible, moins excellent. Alors, c'est quoi qui s'est passé? Bien, on le voit dans le restant du passage, on voit qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a des divisions dans l'Église. On a vu ça depuis le début de la lettre, hein, depuis le chapitre 1. Ça parle constamment de division dans cette Église-là. Et bon sang, j'aurais pas aimé être le pasteur de cette Église-là. Puis surtout que le premier qui se faisait viser, c'était Paul, c'était le gars qui s'occupait, qui avait fondé l'Église. C'était vraiment pas drôle. Alors, les divisions, les conflits depuis le début, ah, oh, mon ami, ça va vraiment pas bien. Alors, il y a de la controverse et tout ça. Puis encore là, dans ce chapitre-là, alors qu'ils prennent la Sainte-Seine, alors que ça devrait être un temps où ils étaient le plus réconciliés, c'est un temps de se réconcilier, la Sainte-Seine, au contraire, qu'est-ce qui arrive? C'est épouvantable, c'est encore pire, c'est incroyable. Et là, les gens sortent, certains sont découragés, surtout des pauvres, ils n'ont rien à manger, tout ça. Alors, tu as la gang de VIP qui sont là, ça mange, c'est la fête, c'est le party, puis ils ont la nourriture en abondance, la boisson, ça y va. Puis ils donnent absolument rien, ils ne partagent pas aux pauvres, aux démunis. Il n'y a pas de nourriture, rien. Alors, s'il y avait une place où on devrait refléter le miracle de la réconciliation, c'est bien autour de la table du Seigneur. Et là, c'est épouvantable, c'est le contraire. Alors, il y a des divisions, des controverses, et il y avait des préjudices. Donc, il y avait toutes ces classes-là, ces rangs sociaux, économiques, toute cette question-là des gens. Il y avait des esclaves d'un côté, il y avait des gens libres, il y avait des gens riches, des aristocrates, des gens importants. Des gens qui avaient beaucoup de pouvoir dans la société, des politiciens et tout ça. Et de l'autre côté, tu avais ces gens démunis. Alors, les démunis sortaient de l'Assemblée après le repas du Seigneur. Ils étaient encore plus brisés qu'avant. Ils se sentaient tout croche avec tout ce qui se passait. Pas de nourriture et tout ça. Et tu avais cette gang-là qui festoyait, qui se fêtait. Alors, on se sentait pire, on se sentait pas bien, on se sentait découragé lorsqu'on sortait de l'Assemblée. On se croyait moins béni. Ils se sentaient comme s'ils faisaient partie des laissés pour compte, des gens de deuxième classe. Et leur pensée, ces démunis qui n'avaient absolument rien, se disaient, « Dieu ne me bénit pas, moi. Les autres sont bénis là-bas. Cette classe-là sont bénis. Moi, je ne suis pas béni. » Parce que voyez-vous, il y avait cette erreur qui circulait chez les Juifs, une fausse doctrine qui circulait, que si tu avais de l'argent, c'est parce que tu étais béni, mais si tu n'avais pas d'argent, c'est parce que Dieu te bénissait, dans le fond. Tu ne faisais pas partie vraiment de l'élite. spirituelle, Dieu te punissait. Alors, les gens se sentaient tout croche, ils ne se sentaient pas aimés. Ils disaient, pour moi, Dieu ne m'aime pas, je ne suis pas assez bon. Moi, j'ai rien. Alors que d'autres fêtent, ils ont le plaisir, ils ont l'air heureux. Moi, je tout croche, je n'ai rien à manger. Les riches ne partageaient absolument pas la nourriture, gardaient tout pour eux-mêmes. Et ça revient avec un thème qui revient souvent à travers la lettre aux Corinthiens. C'est un thème qui va ressortir très fort. On en a parlé plusieurs fois depuis le début de notre série. C'est de mettre les autres avant nous autres. Et ça, c'est un des thèmes qui va revenir très fort à travers la lettre aux Corinthiens. C'est cette idée de ne pas abuser de ma liberté, de faire des choix et de me soucier vraiment des autres, d'avoir un cœur de serviteur, de chercher à aider les uns les autres, chercher à aider les autres. Et ça, c'est un thème qui est très fort, de penser aux autres. Parce que, vois-tu, l'amour prend soin des autres. L'amour ne cherche pas son intérêt seulement. L'amour va chercher les intérêts des autres, va mettre les autres en premier, va chercher à les honorer, leur faire du bien, d'être de bons serviteurs. C'est quoi le message qui va ressortir dans tout ce passage? Même si c'est autour d'une table du Seigneur, il y a un message qui revient très fort, qui ressort de tout ça. Et dans le fond, ça revient implicitement. Paul nous lit ce message-là implicitement dans ce qu'eux ne faisaient pas, au verset 17. Si Paul est en train de dire, vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, ce que ça laisse entendre, c'est que dans le fond, nous devons chercher à devenir meilleur. Ah! Hein? N'est-ce pas? On devrait se rassembler non pour devenir pire, mais on devrait s'assembler pour devenir meilleur. Donc, je devrais, avec l'aide de Dieu, dans quel que soit le contexte de ma vie dans lequel je me retrouve, je devrais rechercher à devenir meilleur. Constamment, pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'entre chez nous, je suis dans ma voiture, je suis en chemin, je me dirige chez nous, je veux faire cette prière, je veux demander au Seigneur, « Seigneur, je m'en vais à la maison, je vais retrouver mon mari ou je vais retrouver ma femme. » Je te demande, Seigneur, cette grâce, la puissance par ton Esprit Saint, que je sois meilleur à la maison que j'étais hier. Je veux rentrer chez nous avec le cœur d'un serviteur. Je veux chercher à rendre l'autre meilleur. Non pas la critiquant, en étant moi-même un modèle, un serviteur. Je veux voir comment je peux aider les autres autour de moi pour qu'ils soient mieux. Comment puis-je être une bénédiction, comment je peux faire du bien aux autres autour de moi. Ça veut dire que quand tu t'en vas travailler demain matin, tu t'en vas travailler, tu rentres au bureau, tu demandes au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, je veux bénir mes employeurs, je veux bénir les autres employés avec qui je travaille, ou je veux bénir les employés qui travaillent pour moi. Je veux être une bénédiction pour les autres. » Et bon sang! Vois-tu le miracle de la réconciliation? Ce serait incroyable. Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Et ça, on a besoin de demander à Dieu. D'un geste concret, aujourd'hui même, ce matin, alors que le Seigneur nous envoie ce message à travers la plume de Paul, de demander au Seigneur, « Seigneur, quel domaine aujourd'hui, par ta grâce, je peux devenir meilleur? » Concrètement, Seigneur. Et c'est une prière que j'aimerais qu'on fasse vers la fin de l'Assemblée, ensemble, qu'on puisse s'unir, qu'on demande à Dieu, « Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais être meilleur en faisant. » Et là, que le Saint-Esprit dirige votre réponse. J'aimerais qu'on termine l'Assemblée ce matin. Et ceux qui nous écoutent par Internet, c'est la même chose. Que humblement devant Dieu, je demande au Seigneur, « Seigneur, je veux aujourd'hui, par ta puissance, je veux devenir meilleur en faisant ça. » Et ça sera différent pour une personne ou pour une autre. Alors, la question que je veux me poser très humblement, est-ce que ma femme se sent élevée par la façon dont je lui parle? Ou est-ce que je suis constamment en train de lui faire du mal en la critiquant, en la faisant sentir comme ces gens ici qui se sentaient bas, qui étaient traités comme la basse classe? Ou est-ce que je fais sentir mon conjoint comme si elle est chérie, honorée? Et comme célibataire, c'est la même chose dans mes relations les uns avec les autres. Comment les autres se sentent quand j'ouvre la bouche? Est-ce que j'ai toujours de la critique qui sort de ma bouche ou suis-je toujours en train de chercher comment je peux édifier, construire les autres autour de moi? Est-ce que vous avez cette réputation-là où les gens disent « Bon sang, j'aime tellement être avec cette personne-là parce qu'elle me fait du bien, cette personne-là m'aide à me rendre meilleur. Elle m'encourage. » Et c'est ça que le message qui se trouve ici dans ce passage. Cherchons à devenir meilleurs comme enfants de Dieu. Et ça va pour la gloire de Dieu. Maintenant, il y a un thème, il y a un mot qui va revenir très souvent dans le passage, il va revenir plus de 5 fois dans ce passage-là. C'est le mot « réunir » qui veut dire, vraiment, c'est l'idée d'assembler, d'être unis ensemble, mettre ensemble, s'approcher les uns des autres, unir, connecter. Ça parle évidemment de relations les uns avec les autres. Le thème qui revient donc dans ce passage, c'est la connexion. C'est les relations, c'est l'unité. Alors, la table du Seigneur a pour but, selon l'enseignement que Paul va donner, il y a un message global, c'est de chercher à devenir meilleur, mais il va parler à travers, il va enseigner sur la table du Seigneur en même temps. Et la table du Seigneur unit ce qui serait autrement désuni. En d'autres mots, lorsqu'on s'unit autour du repas ensemble, s'il y a un lieu qui devrait refléter le miracle de la réconciliation où il n'y a plus de différence entre personnes importantes et moins importantes, s'il y a un lieu, un moment dans la vie de l'Église où tout le monde devrait se sentir égal devant Dieu, c'est bien autour de la table du Seigneur. Paul nous aide à voir que la table du Seigneur nous unit dans 4 domaines. Elle unit le présent au passé. Elle montre cette réconciliation, cette unité, cette communion que nous avons avec Dieu. Elle unit l'individu à la communauté et elle unit notre vie à l'avenir. Elle nous projette à l'avenir. Alors, premièrement, le repas du Seigneur unit le présent au passé. La première chose qu'on apprend du repas du Seigneur, c'est qu'il connecte le présent au passé. Car il connecte immédiatement, c'est ce que Paul fait dans ses paroles, il nous emmène à cette nuit où Jésus a été livré, a été trahi, alors qu'il va partager le repas de la Pâque avec ses disciples. Voyez-vous, les Juifs célèbrent chaque année, encore aujourd'hui en 2016, vont célébrer la fête de la Pâque. Et ça vient d'où ça? Il y a plusieurs années, plusieurs siècles, dans le fond, même dans l'Ancien Testament, on a déjà vu ces films où les Juifs étaient esclaves dans le pays d'Égypte et le roi ne voulait absolument rien savoir de les libérer. Alors là, Dieu est intervenu, il a choisi Moïse pour qu'il intervienne auprès du roi et le roi ne voulait rien savoir. Alors Dieu a envoyé 10 plaies au peuple en Égypte, 10 plaies. Et c'est la dernière finalement qui a convaincu le roi à laisser partir, à libérer finalement, les Juifs, cette dernière plaie où Dieu allait envoyer l'ange de la mort et tuer tous les premiers-nés du pays. Et le seul moyen d'être épargné du jugement que Dieu était en train d'envoyer, c'était de mettre du sang d'un agneau qui avait été offert en sacrifice sur les poteaux des portes et le linteau. Le foyer était délivré du jugement de Dieu. Et les familles ont trouvé refuge sous le sang de l'agneau qui avait été sacrifié. Alors l'agneau meurt à la place du premier-né qui se trouve dans la maison. Alors lorsque l'ange de la mort passe au-dessus du foyer, qu'il voit le sang sur la porte, il passe par-dessus la famille et la famille est sauvée. La famille est protégée. Alors, le roi de l'Égypte a finalement accepté de libérer les Juifs de cet esclavage. Ils sont sortis, ils ont pu quitter l'Égypte. Et ça, c'est le grand miracle de la libération, où les Juifs ont été libérés de l'esclavage en Égypte. Lorsque les Juifs ont quitté, Dieu a institué donc une fête, un mémorial, afin que chaque famille se souvienne de cette grande délivrance, de ce grand miracle de libération, et c'est la fête de Pâques. Voyez-vous, chaque année, à la fête de Pâques, les Juifs célèbrent leur libération. Et encore aujourd'hui, on va avoir la fête de Pâques, et les Juifs vont se réunir ensemble, en famille, et le Père va présider le repas, et à un moment donné, dans la soirée, le Fils va demander « Pourquoi cette soirée est-elle si différente des autres soirées? » Et là, ça donne au Père l'occasion de raconter à nouveau chaque année toute la délivrance miraculeuse des Juifs en Égypte. Alors, c'est une célébration, c'est une fête, c'est une joie de cette délivrance, c'est ça qu'on fête. Et à travers cette fête, les Juifs vont célébrer la libération. Ils prennent du pain sans levain et qu'on appelle le pain d'affliction dans Deutéronome 16. Mais voilà que tout d'un coup, Jésus est avec ses disciples. Alors, c'est lui qui préside, est avec ses disciples. Il est là dans cette soirée où il sera trahi et il prend ce repas de la Pâque ensemble avec ses disciples. Il va donner du pain. Et là, tout d'un coup, pour la première fois de l'histoire, Jésus va donner un sens tout à fait nouveau à cette soirée qui avait pour but finalement de fêter et célébrer ce miracle de libération des Juifs dans le désert. Voilà que Jésus va donner un autre sens et ça deviendra finalement le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Cène. Jésus dit ceci, il prend le pain et dit « Ceci est mon corps, ceci est le pain de mon affliction qui est brisé pour vous. » Jésus s'est donc livré pour nous. Il a pris nos péchés sur lui à la croix. Il est donc l'agneau. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, le repas du Seigneur unit le présent au passé. Il rappelle également le lien que nous avons maintenant avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Cette réconciliation que nous avons maintenant avec Dieu par le sang de Jésus. Grâce à Jésus, nous avons maintenant accès à Dieu. On a maintenant une communion avec Dieu. Notre relation avec Dieu est maintenant rétablie. On peut être en communion avec Dieu. Et la coupe que l'on prend lors de la Sainte Cène, le pain qu'on mange, rappelle cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu, cette communion que nous avons avec Dieu. Cette relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons dans 1 Corinthiens 10, qu'on a déjà lu ensemble, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alors, Jésus s'est rendu accessible. Lorsque Jésus a donné du pain et la coupe à ses disciples, il a dit, « Prenez, mangez, car ceci représente mon corps qui a été livré pour vous. » Ce qu'il est en train de dire, Jésus, c'est que je m'offre à vous. Je me rends accessible à vous. Je me donne à vous. Je connecte avec vous. Je me joins à vous. Je me lie à vous et je m'unis à vous. Vois-tu, le repas du Seigneur fait penser à cette union que nous avons maintenant avec Dieu à travers Jésus-Christ. La Sainte Cène, c'est un symbole. Certaines personnes vont penser que lorsqu'on mange du pain, on mange littéralement le corps, c'est littéral et tout ça, on prend Jésus. Mais non, c'est un symbole, même Jésus lui-même se sert. Dans ce qu'il dit, il est en train d'en faire un symbole. Parce que Jésus n'avait pas encore été offert à la croix, hein? Et pourtant, il dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Il n'avait pas encore été livré. Son corps n'avait pas été livré. Son sang n'avait pas encore coulé. Et pourtant, il dit, « Ceci est mon corps. » Alors, vous voyez, lui-même ne le prend pas dans le sens littéral. Alors, la Sainte Cène a pour but de faire ressortir l'union avec Jésus. Nous rappeler ce sacrifice qui nous fait penser à la communion que nous avons avec lui, avec Dieu. Alors, le repas du Seigneur unit le présent au passé, il rappelle ce lien que nous avons maintenant, cette réconciliation miraculeuse qui a eu lieu, qui nous unit avec Dieu. Il unit aussi l'individu à la communauté, à l'Église, le corps de Jésus-Christ. L'Église de Corinthe est vraiment divisée. Au verset 18, nous disons, tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et verset 20 continue en disant, « Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Alors, c'est quoi qui se passe? Quel est le problème? Eh bien, à l'époque, on prenait la Sainte-Cène dans une maison, dans une demeure, une villa romaine, c'était des églises-maison, et elles étaient construites de telle manière qu'on avait des pièces où on allait manger, selon le degré de pouvoir que tu avais. Alors, d'un côté, pendant ce repas du Seigneur, tu avais des riches qui mangeaient d'un côté, des pauvres qui mangeaient de l'autre. Maintenant, on comprend mieux ce qui se passe en regardant les maisons à l'époque dans l'Empire romain. Dans le livre « In Search of Paul », les historiens Jonathan Reed et John Dominic Crossan vont nous présenter une pyramide qui va, en fait, on peut appeler ça la pyramide du pouvoir. Parce que les gens de l'époque dans l'Empire romain fonctionnaient en fonction du degré de pouvoir que tu avais. Et ça, c'était très respecté dans l'Empire romain. Très, très respecté. Plus que tu étais riche et plus que tu avais du pouvoir, plus tu étais en haut de l'échelle et là, ça descendait. C'était un ordre descendant d'influence et de pouvoir. Et ces historiens ont fait une pyramide qu'on peut appeler la pyramide du clientélisme, ou en anglais « patronage », tout le système de patronage. Clientélisme. Alors là, on va parler de patron, on va parler de client, mais il faut absolument pas avoir notre mentalité 2016 en voyant le patron, le boss d'une entreprise avec ses employés ou les clients. Ça n'a rien à voir avec ça. On parle ici de pouvoir, d'influence, de personnes riches et qui a le pouvoir sur les autres. Alors les gens se rangent sous celui qui a le pouvoir pour bénéficier des avantages, de sa protection, de ce qu'on appelle le patron. Et on se range sous lui pour avoir certains avantages, avoir la protection. Si jamais on était emmené au procès et on voulait se défendre, on était protégé sous ce parapluie de cet homme ou cette personne en pouvoir en haut de l'échelle. Vous pouvez remarquer maintenant l'échelle qui descend. C'est l'échelle du pouvoir, la pyramide du pouvoir. Tout à fait en haut, vous avez la divinité et ça va descendre. Vous avez l'empereur, la famille royale, les prêtres, les aristocrates qui sont à l'aise et riches, les citoyens et les libres, des gens qui sont libres, qui étaient libres de naissance et tout ça. Et vous avez les affranchis. Ça, ce sont des anciens esclaves qui ont été libérés. Ils ont réussi à se libérer. Ils sont pas parfaitement libres. Ils doivent loyauté au patron quand même. Il y a des choses qu'ils peuvent pas faire, mais ils sont quand même plus libres qu'ils étaient avant. Et ça descend avec les esclaves de résidence et les esclaves de champ. Alors, vous avez cette pyramide de pouvoir en fond. Et ça, c'est très important, parce que ça va avoir un impact. Tantôt, le commentateur T. Sultan, qui était un des meilleurs commentaires sur l'Épître aux Corinthiens, nous aide à comprendre que c'est pas mal ça ce qui se passe là, en ce moment lors de la Sainte-Cène. Voici comment les maisons étaient construites à l'époque. Et là, vous avez le produit fini, avec des tapis, tout ça, partout, et c'est vraiment beau, c'est très chic. Mais ça ne vous aide pas à voir la structure des maisons d'époque. Voici un schéma qui va vous aider à voir ce que c'est. Vous avez finalement cette grande pièce qu'on appelle l'atrium et la piscine. Mais dans le fond, c'est comme un genre de bassin d'eau parce que la toiture, le toit, le plafond est ouvert et puis laisse entrer les pluies, la pluie. Alors, on ramasse l'eau de la pluie dans ce bassin d'eau. Et non seulement ça, c'est la toiture est ouverte parce que ça laisse la lumière entrer dans la pièce où on se rencontre. Et en plus, certains avaient des foyers. Alors, ça laisse partir la fumée à l'extérieur. Alors, vous avez remarqué maintenant, donc, deux pièces importantes ici pour ce qui nous concerne dans le passage qu'on va étudier, qu'on est en train de regarder. Vous avez l'atrium, c'était là que les gens se réunissaient. Mais vous avez une toute petite pièce que vous voyez, triclinium. Petite pièce, et juste pour vous donner un exemple, parce que littéralement ça veut dire canapé, ce mot-là, trois canapés, parce que la pièce était conçue de façon en U, où il y avait comme des lits, des sofas en fait, et on mangeait couché. Et ça a l'air de ça, trois tables, il y avait une table avec trois canapés, on mettait des coussins par-dessus, et c'est là qu'on mangeait autour de cette table. Et ça pouvait avoir l'air de ça ici, quand on était réunis ensemble. On mangeait autour, et quand on avait fini de manger, on mettait simplement la nourriture, on jetait la nourriture à terre. C'était les esclaves qui venaient plus tard, puis ramassaient la nourriture. Donc imagine, là, tu étais en train, tu es dans un party, tu manges, là, puis tu as du plaisir, tu as du vin en abondance, tu manges en abondance, c'est la fête, puis là, tu jettes la nourriture à terre. Alors, voici ce qui s'est passé. Il fallait absolument suivre un emplacement très strict. C'était la convention qui voulait ça. On suivait un ordre. Par exemple, le maître de la maison et sa famille étaient assis sur le canapé du fond, qu'on appelle lectus simus. L'invité d'honneur était assis à la place d'honneur sur le lit du milieu, lectus medius, et les autres invités étaient placés en fonction de leur statut et de leur importance, de leur pouvoir, de leur richesse. Voyez-vous? Et là, on a découvert à travers les années des mosaïques, et ça, c'est une mosaïque qui représente ce que le plancher avait de l'air après la nourriture, après le souper. Et là, tu avais toute la nourriture à terre. Et oui, vous avez peut-être remarqué un petit animal qui se trouve là. C'est quoi? Petite souris qui va vraiment lui, c'est la bouffe, c'est le party, il est bien content. Donc, c'est comme ça, on mangeait, on avait des repas et tout ça. Et quand tu rencontrais des gens importants, c'est là que tu les emmenais. Tu les emmenais finalement dans cette salle, dans cette petite pièce, le triclinium, et c'était vraiment là que tu mangeais. C'était les personnes de rang supérieur, la VIP, la section VIP, les personnes de classe supérieure et ceux qui avaient plusieurs pouvoirs. Il y a beaucoup de pouvoirs. Les autres sont où? Ils sont dans l'atrium. Donc, les esclaves sont où? Les gens qui les démunis sont où? Alors, imagine maintenant, tu es propriétaire d'une maison, l'Église se réunit chez vous, tu as le repas du Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Tu assois les gens importants dans cette petite pièce, les gens qui ont de l'argent, et les autres fêtent, boivent à volonté, et dans l'atrium, tu as les autres, tous les autres, et qui sont démunis, qui sont pauvres, et qui voient, ils ne font pas partie de l'élite. Ils sont séparés d'avec eux autres qui sont dans l'autre pièce. Et là, ça va vraiment pas bien. Paul est fâché. Paul, il dit, ça n'a pas de fichu bon sens. Parce que dans le Seigneur, nous devrions tous être dans le triclinium. C'est comme ça que le Seigneur nous voit à travers Jésus. Mais c'est pas comme ça qu'on se traitait à Corinthe. Nous lisons à travers le Nouveau Testament que maintenant, il n'y a plus de riches et pauvres, il n'y a plus d'esclaves, de gens libres, de juifs, de grecs, de femmes, d'hommes. Nous sommes maintenant tous égaux face à Dieu. Alors, l'Église devrait agir de manière où tout le monde se sent égaux. Amen? Absolument. Personne dans l'Église devrait se sentir laissé pour compte. L'amour devrait nous inciter à traiter les frères et les sœurs sur le même pied d'égalité, avec beaucoup de tendresse et d'amour. Mais c'est loin d'être le cas à Corinthe. Paul va réagir. D'ailleurs, nous avons des paroles ici, les plus dures que nous allons retrouver dans toutes les lettres que Paul a écrites. Jamais des paroles aussi dures n'ont été données, n'ont été affirmées à d'autres églises. Cette église, vraiment, là, Paul, parce que ça va tellement contre la réconciliation. Ça va tellement contre le message de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons tous été sauvés par grâce, par la miséricorde de Dieu. Il dit au verset 22, « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? » Voyez-vous, les gens se sentaient, ils avaient honte. Les personnes démunies dans l'atrium avaient honte d'être là. Tu as honte d'être à l'Église, parce qu'on te fait sentir cheap. Et Paul va continuer en disant, même si vous continuez comme ça, vous allez même subir, et déjà ça a commencé, le jugement de Dieu. Dieu va vous châtier. Il dit au verset 27, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Il y avait des gens qui étaient morts, littéralement. Dieu était intervenu et a dit, écoute, ton témoignage est tellement mauvais, j'aime mieux t'emmener à la maison. Et là, on ne parle pas de perte de salut ici. C'est un châtiment et certains sont tombés malades et tout ça. Et Paul et Dieu, des fois, va permettre qu'on ait des épreuves dans nos vies, soit qu'on tombe malade et tout ça, pour nous ramener à l'ordre, pour nous ramener proche de lui, qu'on se rappelle finalement qu'est-ce que Dieu accomplit pour nous sauver par la grâce. Et j'entends ça. J'entends ça ici et là à travers les années que je rencontre des gens ou des gens, ils le savent au fond d'eux. C'est pas toujours le cas. C'était pas le cas de Job. Job a tombé dans les pires épreuves. Il a tout perdu finalement. Mais pourtant, c'était un homme intègre. Et alors, c'est pas toujours le cas. Alors, on n'a pas toujours, à chaque fois qu'il y a un malaise qui arrive, quelque chose qui arrive, que, automatiquement, Dieu est en train de nous punir. C'est pas toujours le cas. Mais des fois, c'est le cas. Ça peut arriver. Et c'est arrivé ici dans le cas de Corinthiens, parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser nous éloigner et entacher le témoignage de l'Évangile. Il peut pas nous laisser faire ça. Alors, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut s'examiner soi-même. C'est ça que Dieu, c'est ça qu'il faut. C'est faut vraiment faire de l'introspection et s'examiner notre cœur. Puis dire, Seigneur, comment je suis en train de traiter les autres? Comment je suis en train de me conduire? Est-ce que j'ai l'humilité dans ma vie? Est-ce que je réalise que si je suis sauvé, un enfant de Dieu, c'est uniquement par la miséricorde de Dieu? Je peux pas me péter les bretelles plus qu'un autre dans l'Église. Nous sommes tous sauvés par la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est ça que Dieu veut. Examine-toi-même. Dieu n'est pas là puis il attend pour nous prendre sur un 2x4 puis nous frapper. C'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça de s'amuser à nous faire du mal. Mais Dieu nous aime comme un bon parent va le faire, parfois va nous ramener et va devoir nous corriger, nous ramener proche de lui. Parce qu'il nous aime trop pour nous laisser aller. Il ne veut pas nous laisser nous détruire. L'Évangile nous place tous sur le même pied d'égalité. On est tous des pécheurs sauvés par grâce, quelle que soit notre position dans la société. Alors, s'il y a des divisions dans l'Église, surtout pour des raisons socio-économiques, mon ami, comme à Corinthe, on est en train d'entacher le témoignage de l'Évangile. La grâce de Jésus devrait faire disparaître mon orgueil. Et c'est pour ça que j'ai besoin constamment, chaque jour, d'aller dans la prière, parce qu'il y a quelque chose en moi qui veut se prendre pour un autre. Il y a quelque chose en moi, cette nature pécheresse qui est là, et parce que je ne suis pas ressuscité encore, il y a du péché dans ma vie, qui veut être le premier, qui cherche la gloire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de revenir à la croix constamment et me rappeler, et la Sainte-Sainte nous rappelle de nous rappeler cela, ce que Jésus a accompli pour nous. C'est juste une grâce. Et c'est ce que devrait produire le fruit. C'est ce que produit le fruit de l'Évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Mais ça a un impact sur vous et moi. Parce que des fois, on commence à se bouder les uns les autres. Parfois, on se confronte, on se critique. Et là, on prend mal la critique. On commence à se distancer les uns des autres. Et là, on commence à créer des clics. Puis on commence à mettre une barrière, un mur entre nous. Il peut y avoir des gens qui ne se parlent plus jamais, puis ils vont à la même église. Et peut-être même il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment à qui tu ne parles plus. Tu as coupé les relations parce qu'il t'a fait du mal. Puis tu refuses de lui pardonner. Il y a de l'amertume dans ton cœur. Il y a de la colère dans ton cœur encore. Et tu refuses de lui parler de lui. Tu refuses de lui demander pardon ou de pardonner. Alors moi, ce matin, je lance cet encouragement-là par l'aide de Dieu, dans la prière, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à me réconcilier avec ce frère ou cette sœur. Aide-moi à lui demander pardon. Donne-moi le courage de pardonner aussi. Prends cette décision de te réconcilier avec les autres ce matin. Le repas du Seigneur unit le présent au passé. Il rappelle et célèbre cette réconciliation que nous avons avec le Seigneur, avec Dieu. Il unit l'individu à l'Église, à la famille de Dieu, à la communauté, et il nous unit à l'avenir aussi. Ça nous transporte dans l'avenir. Verset 26, « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Allez, jusqu'à ce qu'il vienne. Ça fait référence à l'Apocalypse, à la fin des temps, lorsque nous serons partis, nous serons avec le Seigneur. Le Seigneur va revenir, il revient bientôt, nous dit les Écritures. Et on sera avec lui, puis là, ça va être le festin éternel. Tu vas te sentir comme le VIP, mon ami, chaque jour, 24 heures sur 24. Les aspirations que tu as au fond de ton cœur depuis des années seront parfaitement satisfaites en toi. Imagine-toi, parfaitement heureux. Il va falloir écrire une lettre à Harvard. C'est parfaitement heureux pour l'éternité lorsque tu seras dans la présence de Dieu. Parce que tu sais quoi? Il va changer notre corps, il va nous donner un corps glorifié, il va essuyer toute l'âme, il n'y aura plus de misère, de souffrance, tu ne te sentiras plus jamais humilié, écrasé, comme tu es un pas bon, tu es un si. Tu vas te sentir tellement aimé. Et tu sais quoi? Ton cœur va constamment être en fête. Tu n'arrêteras pas de vouloir glorifier Dieu parce que tu vas comprendre, comme tu n'as jamais compris, finalement, la beauté de ce que Jésus a accompli ce jour-là à la croix. Tu vas le réaliser vraiment. Là. On va vouloir adorer Dieu comme on n'aura jamais adoré Dieu. Puis mon ami, tu vas rentrer dans le lieu le plus VIP inimaginable, dans le lieu très saint. Je pense que c'est Don Carson qui a fait remarquer ça. Il dit, avez-vous remarqué que dans l'Apocalypse, tu ne vois pas vraiment comme de temple? Non, il dit, tu sais pourquoi? C'est parce que tu es dedans. C'est une vision de l'intérieur. Tu es là dans le lieu très saint, VIP, dans la présence du lieu trois fois saint pour l'éternité. Ah, mon ami! Et l'ange me dit, Apocalypse chapitre 19, dit ceci. L'ange me dit alors, écrit, heureux, heureux. Si tu sais quoi le bonheur, veux-tu le savoir? Heureux, le bonheur, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. As-tu Jésus dans ta vie? Sais-tu si Jésus est dans ta vie, tu vas faire partie de ce grand festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le chapitre suivant, chapitre 21, continue en disant ceci. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, hey, plus de douleur, fini la douleur, aucune douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici ce que je fais, voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est ta prochaine adresse, le château de Dieu. Amen. Il y a une belle section VIP juste pour toi, là. Ah, mon ami. Le repas du Seigneur, c'est justement ça. Ça nous unit. Ça unit le présent au passé. Rappelle que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Unis. Ça nous unit aussi. Ça nous rappelle l'unité que nous avons les uns et les autres. Ça nous unit aussi à ce qui s'en vient. Ça nous fait penser à ce qui s'en vient. Ce grand jour du festin. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons tellement te remercier. Combien tu es bon. Combien, Seigneur, tu traites chaque enfant comme un VIP. Et Seigneur, nous allons passer l'éternité près de toi, à t'honorer, te glorifier, te chanter, t'adorer, te remercier pour tout ce que tu aurais fait pour nous. On ne réalise pas que chaque moment de la journée sont entre tes mains, que tu diriges chacun de nos pas, Seigneur. Que même lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, tu es en train de te servir de ces choses pour notre bien. Car toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, ce matin, par ton Esprit Saint, veuille parler à notre cœur. Veuille, Seigneur, nous montrer en quoi nous pouvons devenir meilleurs. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, par la foi et avec joie, avec ton aide, je veux devenir meilleur en faisant. Réponds, Seigneur, à nos cœurs. Prenons un moment de silence devant Dieu et que le Saint-Esprit puisse vous montrer comment vous pouvez concrètement aujourd'hui, dans quel domaine vous pouvez être meilleur. Un geste concret aujourd'hui pour devenir meilleur.